Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Dans un peu plus de 3 mois, le Royaume-Uni sortira effectivement de l'Union européenne. Les heures et les jours défilent, et il manque le plus important, un accord commercial entre l'Europe et son voisin élien. Un accord qui a pris sérieusement du plomb dans l'aile. Comme le chantent moqueur les Irlandais de Foyle Arms and Hog, c'est difficile de sortir d'une union.
The one thing that's clear from their history is that it's hard to break free from a union.
It's awful hard to break free from a union, lads.
That's true.
So wouldn't we know all about that in our little country?
We would be.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va revenir sur le nouveau défi lancé par Boris Johnson à l'Union européenne.
Une explosion de joie au beau milieu de la nuit et un séisme en Europe. Le Royaume-Uni vote sa sortie de l'Union européenne.
Dans 9 mois, le Royaume-Uni fêtera les 5 ans du non à l'Union européenne, un non retentissant à la face de Bruxelles et de l'Europe, et la porte ouverte au Brexit. Il aura fallu ensuite patienter jusqu'au 23 janvier 2020 pour que l'accord, accouché non sans douleur entre Bruxelles et Londres, soit enfin promulgué par la reine Elisabeth II. Le texte sera ratifié quelques jours plus tard par le Parlement européen. Le 31 janvier, les Britanniques quittent formellement l'Union européenne.
Bye bye, goodbye. Bye bye, bye bye, goodbye.
Le Royaume-Uni reste toutefois régi par la réglementation européenne jusqu'à la fin de cette année. Il continue encore quelques mois d'appliquer les règles européennes et d'en bénéficier. Car malgré l'accord sur le Brexit, le plus dur reste à venir, serait-on tenté de dire. Car une fois le divorce prononcé, il faut se mettre d'accord sur la garde des enfants, ou plus exactement, sur les conditions des futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union. Gabriel Grésillon, vous êtes correspondant des Échos à Bruxelles. Comment se passent les relations entre Bruxelles et Londres depuis le 31 janvier dernier ?
Ah, écoutez, elles sont évolutives, c'est-à-dire qu'au début, elles étaient plutôt bonnes, et puis tout le monde savait que la négociation n'allait pas commencer tout de suite, et puis tout le monde était content peut-être de souffler un peu après une négociation sur le divorce qui avait été un peu épique, je dirais. Donc au début, tout cela était assez calme, mais ça a commencé un petit peu à se dégrader au début de l'été, et puis encore plus ces dernières semaines, parce qu'on sent une absence de volonté britannique de réellement faire des compromis. Donc il y a quand même une dégradation qui est en train de se jouer, je pense que c'est impossible de le nier.
Il y a une période de transition jusqu'à la fin de l'année, mais Londres ne veut pas se laisser dicter le calendrier. Boris Johnson, Premier ministre britannique, entend rester, comme on dit, le maître des horloges, et il fixe une date, le 15 octobre, pour parvenir à un accord commercial. Il dit... Il doit y avoir un accord avec nos amis européens d'ici au Conseil européen le 15 octobre pour qu'il entre en vigueur d'ici à la fin de l'année. Gabriel, l'accord sur le commerce, c'est vraiment une question cruciale pour l'avenir des relations entre les deux entités ?
Alors, juste une première remarque, il veut être le maître des horloges, mais en réalité, il ne fait que dire un peu l'évidence. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que, compte tenu du temps qu'il faut pour ratifier un accord, si on n'a rien le 15 octobre, on va commencer à s'inquiéter sérieusement. Alors, l'accord sur le commerce, oui, c'est évidemment très important. L'accord sur la relation future, parce que comme on le sait, alors le Brexit, formellement, il a déjà eu lieu, mais en réalité, il sera vraiment effectif, voilà, l'année prochaine. Et là, s'il n'y a pas d'accord, ça veut dire qu'on retrouve un type de relation commerciale dictée par les règles de l'OMC, avec potentiellement des droits de douane, des quotas. Enfin, c'est la fin d'une relation extrêmement fluide qui découlait du fait que le Royaume-Uni était tout simplement membre de l'Union européenne et donc pouvait appartenir au marché unique. Donc voilà, on passerait d'un système de fluidité absolue qui est le même que celui qui peut y avoir entre deux régions françaises, à quelque chose de beaucoup plus incertain. Donc oui, c'est très important, évidemment, des deux côtés, avec cette asymétrie qu'on connaît bien, à savoir que le Royaume-Uni dépend plus de l'Europe pour ses exportations que l'Europe ne dépend du Royaume-Uni. Mais enfin, c'est important des deux côtés.
Les pourparlers durent depuis mars, avec des hauts et des bas, vous le signalez. Sur quoi butent les négociations aujourd'hui?
Alors, elles butent sur un certain nombre de choses, sur des enjeux de gouvernance, mais en réalité, il y a vraiment deux sujets qui se dégagent. Il y a un sujet qui est sectoriel, qui est celui de la pêche, où il faut savoir que les pêcheurs européens profitent abondamment des eaux britanniques. Donc ça, c'est compliqué parce qu'évidemment, les Britanniques voient ça comme un levier énorme dans la négociation et ils ont bien l'intention de monnayer l'accès à leurs eaux de diverses manières. Ils voudraient qu'on revoie les quotas de prise dans leurs eaux tous les ans, ce qui serait évidemment très difficile à gérer pour la filière pêche de pays comme la France, mais pas que la France, hein. Et puis, d'un autre côté, leur levier, il n'est que partiel, parce qu'en réalité, les prises qui sont faites par les pêcheurs européens dans les eaux britanniques, souvent, elles terminent dans les ports britanniques, et ensuite, elles alimentent une industrie de transformation britannique, et ensuite, le marché final, le débouché final de ces produits, bah, il est massivement européen. Et donc, en fait, les Britanniques ont aussi besoin de l'accès au marché européen. Donc voilà, il y a cette question-là, mais qui est une question sectorielle, technique. Évidemment, il y a un bras de fer derrière, tout le monde essaye de faire valoir ses arguments, mais je dirais que la vraie question la plus cruciale, c'est celle qu'on appelle techniquement ici le level playing field. Donc ça revient à essayer de trouver des conditions d'équité, d'égalité dans la relation commerciale future. Les Européens disent aux Britanniques, si vous voulez continuer à commercer avec nous de façon fluide, alors il va falloir continuer à respecter nos règles. Et en particulier, nos normes sociales, nos normes environnementales, et puis nos règles sur les aides d'État. C'est-à-dire, en gros, il n'est pas question que demain vous vous mettiez à subventionner massivement une industrie, parce que si vous faites ça et qu'on n'a aucun recours possible, vous allez pouvoir inonder notre marché avec vos produits. Et dans ces cas-là, nous, on ne veut pas vous donner un accès illimité à notre marché. Donc, c'est une question très complexe parce que le point de vue européen, comme je viens de l'expliquer, il est évident. Pas question d'avoir une concurrence déloyale sur notre marché. Mais le point de vue britannique, il est aussi compréhensible parce que pour eux, c'est un enjeu de souveraineté. Ils disent, mais attendez, nous, on a quitté l'Union européenne, c'est pas pour continuer à suivre vos règles. Donc, ça, c'est le nœud de l'affaire parce que c'est une question qui est à la fois politique, mais presque existentielle pour le Royaume-Uni et très philosophique.
C'est le début d'un huitième round de discussion. Les tensions montent de nouveau entre Londres et Bruxelles. Le Premier ministre britannique Boris Johnson menace et évoque une possible remise en cause de l'accord.
Nous sommes le 7 septembre. Un nouveau round de négociations doit débuter. Le huitième round, comme le précise France 24. En boxe, à ce stade du combat, les coups font plus mal et peuvent déboucher à tout moment sur un chaos. Mais entre Londres et Bruxelles, personne ne semble vouloir lâcher. L'heure tourne et la pression augmente à un peu plus d'un mois de l'ultimatum de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique va alors tenter un coup de poker en sortant de sa manche un projet de loi controversé. Celui-ci porte sur le marché intérieur britannique et j'ai demandé à Alexandre Kounis, correspondant des Échos à Londres, de démêler les nœuds du problème.
Alors, c'est un projet de loi qui était prévu, qui doit assurer normalement la fluidité des échanges entre l'Irlande du Nord, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre une fois la sortie de l'Union européenne effective à la fin de l'année. Ce qui n'était pas prévu, c'est que Boris Johnson profite du texte pour y inclure des dispositions qui donnent au gouvernement britannique le pouvoir de détricoter le protocole nord-irlandais, ce qu'on appelle le protocole nord-irlandais, c'est-à-dire le volet sur l'Irlande du Nord de l'accord de retrait qui avait été conclu il y a un an avec Bruxelles. Autrement dit, de prendre des mesures réglementaires susceptibles d'entrer en conflit avec cet accord, voire d'annuler certaines des obligations qu'il prévoit.
En quoi ça concerne l'Union européenne?
Alors, l'UE peut légitimement s'inquiéter de voir Londres s'asseoir sur ses engagements un an à peine après les avoir acceptés de son plein gré, hein, dans l'accord de retrait. Et alors même que l'UE est en train de négocier un accord commercial avec Londres pour l'après-Brexit, en espérant d'ailleurs conclure d'ici à la fin de l'année. En pratique, un tel texte de loi permettrait à Londres d'invalider de manière complètement unilatérale deux dispositions de l'accord conclu en 2019 avec l'UE, le devoir de notifier à Bruxelles toute aide d'État qui affecterait le marché des marchandises nord-irlandais, et puis l'obligation pour les entreprises de cette province de remplir des formulaires douaniers lorsqu'elles expédient des biens vers le reste du Royaume-Uni.
Dit comme ça peut paraître mineure où on ne comprend pas forcément pourquoi ça crée autant de tensions entre l'Union européenne et l'Angleterre. Le fond du problème, ça reste l'unité du pays et la frontière irlandaise ?
Oui, oui, comme depuis le début d'ailleurs des discussions sur le Brexit en fait. Si Boris Johnson veut à tout prix minimiser les contrôles douaniers en mer d'Irlande, c'est-à-dire entre l'Irlande du Nord et puis le reste du Royaume-Uni, c'est qu'il lui faut vraiment éviter d'enfoncer le moindre coin dans l'unité du Royaume-Uni, qui pourrait favoriser la montée des tentations indépendantistes à Belfast, mais aussi à Édimbourg, où on regarde évidemment tout ça de très près. D'autant que en Écosse, il y a des élections législatives qui se profilent pour le mois de mai au Parlement écossais, et que les indépendantistes du Scottish National Party, le SNP, qui est actuellement au pouvoir, devraient le conforter. Or, le SNP a déjà prévu, d'ailleurs, il l'a dit il n'y a pas très longtemps, qu'il comptait remettre à l'agenda un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse.
Ouais, ce qui est une épine dans le pied, effectivement, pour Boris Johnson et puis pour tout le gouvernement britannique. Il faut aussi éviter à tout prix le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande qui reste dans l'Union européenne.
Oui, alors ça, c'est effectivement pour ça qu'on a mis en place l'accord de retrait. C'était le but. Et donc, évidemment, pour éviter le retour de troubles ou de violences à cette frontière où le moindre poste douanier pourrait être vécu comme une provocation. Et c'est vrai que même si aujourd'hui, et depuis l'accord de paix de 98, l'accord qu'on appelle du Vendredi Saint, les choses sont pacifiées, il y a encore des groupes paramilitaires qui sont présents et qui même pourraient profiter de la situation pour accentuer leur activité sur place. Donc, la paix est fragile et tout le monde le sent bien, en particulier les Anglais.
Le Premier ministre et ses amis, une bande de voyous, sont en train de créer un État voyou, un État où l'État de droit ne s'applique pas. Pourquoi le Premier ministre pense-t-il que lui et ses amis sont au-dessus de la loi ?
On vient d'entendre un leader de l'opposition britannique s'en prendre au Premier ministre qui a répondu « défense de la croissance et de l'emploi dans un pays souverain ». Gabriel Grésillon, comment les Européens, eux, ont-ils réagi ?
C'est assez simple. Hein. Ils ont réagi avec de la colère qu'ils ont essayé de préserver dans un certain calme parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air d'être ceux qui s'emportent et qui portent la responsabilité d'un éventuel échec de la négociation. Mais il y a une vraie colère devant le non-respect de la parole donnée, tout simplement.
Une telle loi violerait le droit international et saperait la confiance avec Bruxelles. C'est la réaction de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. De son côté, Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union, rappelle que tout ce qui a été signé dans le passé doit être respecté. Gabriel, Londres peut revenir sur cet accord ratifié au forceps en début d'année et qui a quand même valeur de traité international.
Bah, écoutez, là, je suis peut-être endoctriné par la pensée bruxelloise, mais non. Évidemment que non. Et c'est bien pour ça que ça fait hurler tout le monde ici, c'est que on a très 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 laborieusement accouché d'un compromis sur l'accord de retrait. Ça a été extrêmement compliqué, notamment autour de la question irlandaise. On a fini par s'entendre sur un texte extrêmement subtil l'année dernière, et tout d'un coup les Britanniques décideraient de s'en affranchir. C'est le contraire de tout ce qui serait nécessaire pour que la confiance soit présente dans la relation future et dans la négociation en cours. Donc vraiment, si le Royaume-Uni fait ça, ça pose un vrai problème de crédibilité du pays.
Et le plus étonnant, notait récemment un observateur, c'est que ce sont les Anglais qui ont inventé la notion il y a plus de 300 ans de « rule of law » qui pose la prééminence du droit sur le politique.
But it's the law of the West.
Gabriel, dans cette situation, que peut faire Bruxelles ?
Écoutez, Bruxelles peut faire ce qui vient d'être fait, en fait, hein, c'est-à-dire menacer de représailles, poser des limites très claires, donner une date limite, dire voilà, vous avez jusqu'à la fin septembre pour supprimer de votre loi les dispositions qui sont problématiques et qui vous feraient revenir sur votre engagement. Et si vous ne le faites pas, eh bien, on portera le litige devant la justice. Et il se trouve que l'accord qui a été signé, il prévoit des mécanismes de règlement de différends. Donc voilà, on est prêt à aller à la confrontation juridique, évidemment, sur cette question.
Côté européen, cette crise semble intervenir quand même à un moment où le négociateur en chef, Michel Barnier, semble fragilisé par l'absence d'avancées significatives avec les Britanniques depuis plusieurs mois.
Alors là, franchement, moi, j'en suis pas persuadé. Michel Barnier, c'est surtout quelqu'un qui a été deux fois commissaire européen et qui connaît en fait très bien le marché intérieur et son fonctionnement. Du coup, moi, je dirais qu'il a entamé cette négociation avec une vision qui est très claire de ce qui était en jeu. Et c'est plutôt cette vision qui peu à peu s'est imposé dans la discussion. En gros, ça consiste à dire que le départ des Britanniques, aussi triste qu'il soit, est un moindre mal par rapport à ce que serait un détricotage du marché intérieur. Donc oui à un accord, mais pas à n'importe quel prix. Et cette ligne, elle tient, elle ne bouge pas et elle sert finalement de cap aux Européens. Alors elle est extrêmement frustrante dans la période actuelle parce qu'on est dans un de ces moments où on a le sentiment que peut-être que les Britanniques vont préférer ne pas avoir d'accord plutôt que de respecter cette règle qu'on s'est fixée. Mais en réalité, si on pense un petit peu à long terme, tout le monde, y compris un pays comme l'Allemagne, qui est très focalisé sur ses exportateurs, se rend compte que, à long terme, c'est probablement préférable de perdre un débouché extrêmement facile comme le Royaume-Uni, plutôt que de sacrifier l'intégrité de ce marché unique qui est en fait un petit peu notre joyau à 27, quoi.
C'est une drôle de course-poursuite entre Londres et Bruxelles, une sorte de course à l'échalote, avec des coups en douce, des choses trappes. Alexandre Kounis, pourquoi Boris Johnson prend-il le risque de remettre en cause l'accord trouvé si difficilement avec Bruxelles sur le Brexit ?
Alors sans doute pour plusieurs raisons en fait, hein, même si on ne connaît pas exactement ses motivations précises, et c'est d'ailleurs bien là la difficulté. D'abord, parce que les termes de l'accord conclu il y a un an avec Bruxelles, on l'a dit, sur l'Irlande du Nord notamment, ne lui conviennent pas tout à fait. Ensuite, pour flatter l'aile droite de son parti, hein, le parti conservateur et les hard Brexiteurs, hein, qui sont évidemment ravis de le voir durcir le ton face à Bruxelles. Enfin, aussi parce que ça lui donne un levier dans la négociation en cours avec l'UE sur la conclusion d'un accord de libre-échange, hein, pour encadrer, comme on l'a dit, les relations commerciales entre les deux blocs pour l'après-Brexit.
Est-ce que c'est aussi une question d'ego ?
C'est possible que ce soit aussi une question d'ego, peut-être plus un ego national qu'un ego pour Boris Johnson, puisque Boris Johnson a montré jusqu'à présent qu'il était prêt à changer de cheval et assez facilement si la situation le demandait et qu'il mettait son ego plutôt dans sa poche s'il fallait s'adapter à une situation nouvelle. Donc, d'ailleurs, il a été taxé pas mal de girouettes à la rentrée parce que les gens commençaient à compter ses volte-face. Un ego national, ça oui, il y a toujours un ego national puissant et fort depuis le Brexit au Royaume-Uni. Et c'est sûr que Boris Johnson entend le flatter dans le sens du poil, notamment dans les régions qui ont voté pour lui aux dernières législatives, qui sont des régions fortement brexiteuses et anciennement travaillistes dans le centre et donc le nord du pays.
Oui, c'est vrai que c'est sans doute aussi un message à ceux hein, qui lui ont fait remporter brillamment les législatives, on le disait. Mais est-ce que c'est aussi un moyen de faire pression sur Bruxelles alors que Londres négocie le cadre de l'accord commercial et qui ne paraît pas forcément en position de force ?
Alors sans doute, parce que l'initiative de Johnson ressemble quand même pas mal à une menace. Ça pourrait même être une monnaie d'échange dans la négociation sur l'accord commercial futur. Mais c'est surtout, semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'il expliquait ce week-end, un moyen de pression sur l'UE dans une autre négociation, dont on parle moins, mais qui porte encore aujourd'hui sur certaines modalités du protocole nord-irlandais de l'accord de retrait. Donc même un an après sa signature. Et cette négociation est difficile, elle porte sur des points qui sont des points de détail, mais évidemment qui ont leur importance. Et Boris Johnson prétend que Bruxelles l'aurait menacé d'instaurer un blocus alimentaire sur l'Irlande du Nord pour les produits venant du reste du Royaume-Uni dans le cours de cette négociation, ce qui l'aurait obligé à préserver ses intérêts en dégainant son projet de loi. Alors Dublin démentait toute volonté d'instaurer ce week-end un blocus européen. À la limite, peu importe la manière dont les choses ont été dites ou ont été comprises dans cette négociation, ce qui est clair, c'est que avec ce projet de loi, Boris Johnson se remet en position de force dans la discussion.
Est-ce que c'est révélateur aussi des difficultés de Londres à signer des accords commerciaux, cette fois-ci avec le reste du monde ?
Alors non, je dirais pas ça, parce que bon, c'est vrai que ces discussions avec Bruxelles, c'est quand même un cas très particulier. D'abord parce que la négociation concerne deux parties issues du même bloc, dans lequel elles ont évolué quand même pendant presque 50 ans. Et puis qu'elle s'est chargée aussi de symboles politiques très forts qui l'ont compliqué et même envenimé. Donc il y a d'autres négos, c'est vrai, en cours. Pour Londres, qui a toujours dit que le Brexit devait lui permettre de retrouver une liberté, une souveraineté commerciale pour signer des accords avec des pays tiers d'elle-même. Et donc là, ils viennent de remporter, les Britanniques, un premier succès il y a quelques jours seulement, en fin de semaine dernière, en signant un accord important avec le Japon. C'est le premier accord commercial majeur d'une nation indépendante sur le plan commercial, si j'ose dire. En tout cas, c'est ce dont se félicitait vendredi le gouvernement britannique. Mais bon, Au fond, chaque cas est un peu particulier et c'est vrai que, par exemple, les discussions avec Washington pour conclure un nouvel accord commercial, elles, par exemple, s'annoncent beaucoup plus compliquées.
Oui, et c'est pas sûr d'ailleurs que le côté jusqu'au boutiste ou en tout cas menace marche avec Donald Trump. Hein.
Non, et c'est vrai qu'il y a eu déjà des déclarations, alors c'était plutôt côté démocrate, mais après tout, il y a quand même une élection en novembre, donc il n'est pas exclu qu'ils prennent le pouvoir, qui ont dit, c'était Nancy Pelosi, président de la Chambre des représentants, qui a dit que tout ce qui se passait actuellement avec l'Europe depuis quelques jours n'augurait rien de bon pour l'avenir des discussions avec Washington.
Alexandre, jusqu'où Boris Johnson est-il prêt à aller et jusqu'où son parti est-il prêt à le suivre?
Alors justement, ça c'est toute la question de ces prochains jours, parce que la résistance s'organise depuis vendredi au Parlement britannique pour annuler ou en tout cas encadrer les futurs pouvoirs que Boris Johnson entend s'arroger au mépris de l'accord conclu avec Bruxelles l'an dernier. Il y aurait une trentaine de députés conservateurs qui seraient prêts à voter un amendement qui contraindrait le gouvernement à obtenir le feu vert du Parlement avant de détricoter le protocole nord-irlandais, le fameux protocole nord-irlandais. Or, une quarantaine suffirait pour que l'amendement soit adopté. Donc, on verra ce qu'il en est probablement début de semaine prochaine, avec un vote prévu à la Chambre des communes mardi prochain. Et puis ensuite, il y aura les lords, puisque le texte doit leur être aussi soumis, le projet de loi. Et ils ont déjà annoncé leur volonté d'en découdre pour annuler carrément toutes les dispositions que Boris Johnson vient juste de faire rajouter.
Et Boris Johnson subit aussi les foudres de deux de ses prédécesseurs au 10 Downing Street.
Yet on Sunday, two of Johnson's predecessors, Tony Blair and John Major, said they thought his bill was shaming and embarrassing to Britain's reputation.
Le monde regarde le Royaume-Uni avec stupéfaction pendant que les actions de ce gouvernement lui font honte et embarrassent notre nation, écrivent dans une tribune publiée sur le Sunday Times le conservateur John Major et le travailliste Tony Blair. Ces critiques interviennent, Alexandre, alors que la pandémie de coronavirus a durement frappé l'économie britannique, encore plus durement que celle de l'Union européenne. Est-ce que ça peut infléchir la position de Boris Johnson?
Ah, alors je voudrais bien pouvoir vous dire que oui, mais à mon avis, c'est loin d'être sûr. Ce serait la logique, évidemment, c'est vrai, parce que le pays a vu son PIB fondre de 22% sur les 6 premiers mois de l'année, et puis il s'apprête à affronter sur l'ensemble de l'année 2020 sa pire récession en 300 ans. Bon. Mais les enjeux politiques depuis le référendum de 2016 sur le Brexit semblent clairement avoir pris le pas sur les impératifs économiques au Royaume-Uni. Hein. Pas seulement dans la population qui a voulu que le pays retrouve sa souveraineté, même s'il y avait un prix à payer en termes de croissance quand la population a voté en faveur du Brexit. Mais aussi jusqu'aux arcanes du pouvoir, où Johnson pense beaucoup aussi à sa cote de popularité. La pandémie pourrait même en fait conforter la fuite en avant de Londres, dans la mesure où il y a certains hard Brexiteurs qui poussent le Premier ministre à se montrer d'autant plus dur avec Bruxelles que les effets d'une sortie de l'UE sans accord commercial pour la suite seront masqués, en tout cas à court terme, par ceux de la pandémie.
Gabriel Grésillon, vu de Bruxelles, les risques d'un Brexit sans accord commercial sont de plus en plus élevés?
Alors, les risques sont à la hausse, ça c'est certain. Maintenant, j'aurais bien du mal à vous donner une probabilité en valeur absolue. À mon avis, ils sont encore inférieurs à 50%. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier comment s'était passée la négociation précédente. Johnson, il pratique un peu ce que j'appellerais la stratégie du fou, quoi. C'est-à-dire que il prend des décisions qu'on a énormément de mal à décrypter. On se demande si c'est un super stratège ou si, au contraire, tout ça est un petit peu erratique. Et au final, on a beaucoup de mal à savoir où ça va. Mais on peut pas du tout exclure que, exactement comme ça s'était passé dans la négociation précédente, on soit dans la phase de dramatisation qui va permettre d'accoucher d'une intensification de la négociation. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a quand même un bémol, c'est que pour certains, en fait, la différence entre accord et pas d'accord n'est peut-être pas si énorme que ça, parce que dans tous les cas, qu'il y ait un accord ou pas, il y aura des contrôles aux frontières, il y aura des vérifications sur le respect des normes, etc. Et donc, dans tous les cas, il y aura un impact sur la fluidité des échanges avec le Royaume-Uni. Donc, certains se disent, peut-être que Boris Johnson est en train de faire le calcul que, bon, dans tous les cas, il va perdre en fluidité. Alors, peut-être que ça peut valoir le coup d'aller, entre guillemets, si vous me passez l'expression, au clash, de ne pas avoir d'accord et puis de revenir à la table de négociation ultérieurement pour reprendre cette conversation à tête reposée.
On parle avec Gabriel des risques d'un accord sans Brexit qui semble de plus en plus important. Que se passerait-il si aucun accord n'était possible?
Alors, les effets seraient sans doute plus désastreux encore pour le Royaume-Uni que pour l'UE, tant son économie est dépendante de l'Union européenne dans des secteurs comme l'automobile, comme l'aéronautique, les médicaments. ou les services financiers. Même si on peut imaginer que des mini-accords sectoriels pourraient peut-être être trouvés entre les deux blocs, mais ça supposerait, et c'est une condition qu'il faut poser, que la confiance entre Londres et Bruxelles soit un minimum préservée.
Et confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Attention, va descendre.
Merci Alexandre Kounis et Gabriel Grésillon, correspondants à Londres et Bruxelles, pour les échos, pour ce décryptage des négociations compliquées sur le Brexit. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Castbox, Podcast Addict, Apple Podcast ou le petit nouveau Audio Now, sans oublier Deezer et Spotify. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.